Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Eh bien, le printemps de l'économie, ça se passe au mois d'octobre, mais le lundi à 18h, et nous sommes le lundi 17 octobre sur Radio Campus Paris, le lundi à 18h, les choses sont à leur place, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue pour 30 minutes de relève ce soir. Préparez feuilles et crayons pour prendre des notes, à moins que vous ne le fassiez, moderne que vous êtes, sur vos smartphones. On va parler calories et bien manger. Mon invité est cuisinière. Bonjour Lila Djedi. On vous doit un livre aux éditions Tana Cuisine, aux éditions Tana, voilà, je ris et je ne suis plus concentré. On vous doit aux éditions Tana un livre qui s'appelle Cuisine du quotidien pour étudiants et étudiantes, avec 60 retraites végétariennes pour petit budget. Le titre est un peu long, mais c'est très complet, au moins on sait de quoi on va parler. Vous avez fait d'autres choses avant dont on va reparler un peu plus tard. Et pour commencer, je vais tout simplement vous demander comment est née l'idée de ce livre, de faire un livre de cuisine spécialement pour les étudiants.
Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est venu tout simplement parce que j'ai l'habitude de travailler sur effectivement une nourriture bio, de qualité et bonne pour le corps et l'environnement, pour différents publics. Et les étudiants, c'était un public qui me touchait parce que je trouve que la malbouffe peut être très présente. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps entre la charge de travail, les révisions, les sorties entre copains. Parfois, il est vraiment difficile de se préparer des recettes de qualité.
Vous êtes allé dans les restos U?
Oui, ça m'est arrivé d'aller dans les restos. Oui.
Et alors, c'est ça qui vous a convaincu de...
Ah, je crois que la nourriture est vraiment pas très heureuse, effectivement, et on peut faire beaucoup mieux à la maison, et tout en essayant d'avoir un budget peu coûteux.
Au Royaume-Uni, un chef comme Jamie Oliver est devenu le chantre du bien manger dans les cantines pour enfants, et je crois qu'il a eu vraiment des résultats. C'est quelque chose, vous pourriez mener un combat semblable pour les Restos U demain?
Ah oui, complètement. Et puis je crois qu'il faut vraiment œuvrer partout, hein, dans les écoles, effectivement dans les cantines, mais aussi avec des thématiques dans les cours où on pourrait effectivement travailler sur l'équilibre alimentaire, sur le coût, sur l'écologie, où on pourrait vraiment avoir un sujet holistique autour de l'alimentation durable.
Mmh. Parce qu'on ne va pas mentir, on parlait juste avant que ça commence et moi je vous disais, il y a longtemps que j'étais étudiant, c'est quand même là où j'ai pris toutes mes mauvaises habitudes alimentaires, c'est au resto U. Ou en gros, ce truc qui était mangeable, c'était les frites.
Oui, et c'est problématique. Et il y a beaucoup aussi de nourriture et de malbouffe et de nourriture ultra transformée, ce qui est vraiment délétère. Et effectivement, on peut très rapidement être un peu accro à cette nourriture et du coup oublier de prendre soin de soi et de se donner surtout les bons nutriments. Parce que quand on est étudiant, c'est un peu de l'endurance, quoi.
Mais justement, vos recettes sont souvent des recettes végétariennes. Hein. Oui. Dans l'imaginaire, quand on est étudiant, on a besoin d'énergie, de manger. On peut tenir avec des légumes?
Alors, la cuisine végétarienne, c'est pas seulement des légumes, et heureusement, hein, sinon on s'ennuierait un petit peu et puis on n'aurait pas tous les nutriments nécessaires. Mais effectivement, la cuisine végétarienne, elle est très riche de différentes choses, comme par exemple des légumineuses. Donc les légumineuses, on en parle plus peu. Et pourtant...
C'est quoi les légumineuses?
Alors, les légumineuses, c'est par exemple les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés. Ce qui est très intéressant, d'abord, c'est une protéine végétale. Elle est très rassasiante. Elle contient beaucoup de nutriments, donc du magnésium, du potassium, du calcium, des protéines végétales, beaucoup de fibres. Donc ça, c'est intéressant aussi pour être en santé. Et puis, c'est très peu coûteux. Donc quand on a un petit budget comme les étudiants, et pas que, mais comme les étudiants, c'est vrai que s'offrir des légumineuses de qualité au quotidien, c'est vraiment intéressant.
Allez-y.
Et puis ensuite, on a les céréales. Et on n'a pas que la semoule dans les céréales.
Les pâtes, c'est des céréales?
Les pâtes, ce sont des céréales. En fait, ce sont des féculents. Le riz, on a du riz semi-complet, qui est très intéressant. On a du boulgour, on a de la semoule, on a tout plein d'autres céréales qui sont vraiment, pareilles, très rassasiantes et qui contiennent beaucoup de nutriments. Qui font du bien.
Même pour un étudiant qui va faire du sport, qui fait son...
Ah oui, complètement. Mais je crois qu'en fait, pour bien se nourrir, l'intérêt, à mon avis, c'est de diversifier son alimentation. Donc il faut d'abord commencer par se construire une belle culture culinaire. Ça, c'est indispensable. Si on veut bien manger, si on veut donner les bons nutriments à son corps. Et puis, il y a aussi, comme je vous disais, les céréales, les légumineuses, on a les bons gras. Donc les bons gras, c'est les bonnes huiles, une huile d'olive, une huile de colza, qui contient beaucoup d'oméga-3. et c'est pas trop coûteux aussi l'huile de colza. On peut avoir également des oléagineux, on peut avoir un bon beurre cru, on peut avoir des œufs de qualité. Les œufs, ça coûte pas très cher et beaucoup moins cher qu'une viande, donc on peut s'offrir des œufs de qualité.
Justement, vous avez exclu la viande et le poisson parce que ça coûte cher et que vous vouliez faire des recettes pas chères, ou parce que vous êtes une militante de la cuisine végétarienne?
Alors, j'ai exclu la viande et le poisson, effectivement, parce que c'est un engagement depuis longtemps. Moi, j'ai eu un restaurant pendant 7 ans où c'était une cuisine autour du végétal que je proposais. Je mange de la viande, très peu de poisson, uniquement des poissons gras en boîte et plutôt de qualité, donc des sardines pour avoir du calcium et des bons oméga-3 et des protéines animales.
Plutôt en boîte?
Alors, plutôt en boîte, vous savez, les petites sardines.
Oui, je vois bien.
Ouais, c'est plutôt pas mal, ça, en D'accord. termes de nutriments, parce que les pêches, parfois, les sardines, on ne sait pas trop d'où elles viennent, etc. Et celles-ci, moi, je les achète plutôt en magasin bio, donc je sais qu'il y a une traçabilité. Ce sont des conserveries en Bretagne, par exemple. Et c'est important pour moi d'avoir une traçabilité. Mais effectivement, sur les boîtes, je vais aller plutôt sur des sardines qu'on trouve en magasin bio, parce que les autres, souvent, ça contient énormément de sucre quand on va dans un supermarché classique. Donc, très peu de viande. Et la viande que je mange, je vais vous dire, moi, je mange de la viande 2-3 fois par mois, donc pas beaucoup, mais on est dans une AMAP et dans un groupement d'achat et on a un producteur de viande bio et je mange uniquement cette viande-là. Donc du coup, c'est vrai que quand je diminue ces aliments-là, en termes de budget, je m'y retrouve vraiment, et en complétant avec des œufs, un petit peu de fromage de temps en temps et une viande de qualité 2-3 fois par mois, l'équilibre est parfait. Hein.
Vous parliez tout à l'heure d'une bonne culture culinaire. Alors, votre ouvrage commence par une trentaine de pages, je ne les ai pas exactement comptées, de conseils sur les nutriments, c'est les ça. Types de cuisson, les conseils pour bien faire ses courses. C'est justement... Vous vous présentez comme un coach aussi pour apprendre aux gens à acquérir cette culture culinaire?
Oui, alors coach, je ne sais pas, mais surtout l'envie d'expérience, parce que je propose des ateliers de cuisine également depuis 6 ans. Moi, je crois que c'est la méconnaissance qui fait qu'on ne fait pas bien les choses. Et à partir du moment où on a la connaissance, et ça, je le vois, hein, eh bien, personne n'a envie de détruire la planète et personne n'a envie d'être en mauvaise santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit, quoi. Il y a vraiment un problème autour de la malbouffe et de l'alimentation ultra transformée. Et on n'en parle pas trop, mais le diabète, l'obésité, vraiment, c'est de plus en plus croissant. Et notamment, c'est chez les populations jeunes, ce qui est assez effrayant. Et c'est surtout dû à cette alimentation. Donc moi, mon envie, c'est juste de dire, ok, on ne connaît pas forcément et on n'a pas toutes les bases, mais voilà, regardez un petit peu les différents possibles, ce qui se joue, comprendre le système alimentaire, et puis maintenant, à vous d'œuvrer avec vos contraintes.
Mmh. Est-ce que vous avez été, parce qu'à chaque fois, il y a le prix des recettes, et votre promesse, c'est, je crois, de faire des repas pour un budget hebdomadaire de 28 à 32 euros.
Exactement, de 28 à 33 euros par semaine.
Par semaine. Est-ce que vous avez été influencé par les files d'attente effrayantes qu'on a vues pendant le Covid? Qui rappelait la précarité de nombreux étudiants. J'en parle d'autant plus qu'ici, quand on quittait la radio à l'époque, moi, plus d'une fois, ici, il y avait un centre de distribution. C'était effrayant de voir tous ces jeunes qui n'avaient pas de quoi manger.
Oui, moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que je milite pour une nourriture juste pour tous. Et vraiment, je pense que c'est une des clés aussi d'une société en santé. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touchée. Alors, il y a quand même différents publics. Il y a des publics qui sont extrêmement précaires et pour qui même ce budget-là, ça reste compliqué. Donc ça, c'est une réalité hein, chez les étudiants et pas que. Et puis, j'avais surtout envie de dire qu'on pouvait vraiment, vraiment bien se nourrir avec un petit peu de méthode et un petit peu de bon sens et en apprenant un minimum de choses qui permettent de faire les bons choix, tant financiers que pour son corps et puis pour se donner le bon carburant pour étudier au long cours.
Alors, il y avait un reportage de France que j'ai trouvé sur France TV Info qui vient de France 3, qui était une étude qui date de 2017 sur le budget des étudiants, hein, c'est ça. Hein. 80% d'entre eux dépensent moins de 8 euros par jour, 30% n'ont pas 5 euros par jour, parfois ils ne mangent pas. 2/3 des étudiants disent sauter un repas et 10% avouent ne pas manger à leur faim.
Oui, et moi je travaille avec une épicerie solidaire et elle me dit très souvent qu'il y a des nouveaux étudiants qui arrivent et effectivement ils n'ont pas mangé, ils ont sauté 2 repas. Quoi. Ça pour moi c'est insupportable, hein. Donc il faut absolument œuvrer pour les accompagner, donc
et peut-être
les aider.
Les aider à faire au moins un bon repas par jour, alors peut-être pas pas tout proposer midi et soir.
Oui, après, vraiment, hein, et peut-être qu'on donnera des recettes et on verra, quoi. Mais c'est vrai que quand même, hein, si on va sur les légumineuses, sur les céréales, sur des œufs, sur des choses comme ça, on arrive quand même à des prix qui sont beaucoup plus abordables. Il y a des AMAP aussi, alors ça, on n'en parle pas trop, mais il y a des façons d'acheter des légumes qui sont quand même très coûteux et qui sont, voilà, d'une façon générale. Et il y a des petites astuces aussi pour avoir des prix un peu moins coûteux. Et c'est vrai que moi, c'est surtout cette idée d'avoir un équilibre alimentaire avec d'autres aliments que la viande, que le poisson, qui coûte extrêmement cher.
Et la nourriture transformée.
Et la nourriture ultra transformée, c'est juste du poison, hein, à part enrichir les poches. Pardon, hein, mais c'est vrai, à part enrichir les poches de l'industrie agroalimentaire, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est clair. Et c'est très délétère, surtout. Donc c'est vrai qu'il faut avoir conscience de ça. Après, si on a envie de manger de temps en temps une junk food parce que ça fait plaisir, parce qu'on est avec les copains, parce qu'il y a quelque chose autour voilà, d'être ensemble, pourquoi pas ? Mais il ne faut absolument pas que ce soit la nourriture du quotidien.
On dit beaucoup, oui, même tout le temps, que le temps, c'est de l'argent. Est-ce que cuisiner, ça ne prend pas aussi beaucoup de temps pour un étudiant qui a tellement d'autres choses à faire ?
Alors,
est-ce que vous avez essayé de faire des recettes rapides ?
Ah oui, c'est-à-dire que la plus longue, et je trouve qu'elle est déjà trop longue, c'est 30 minutes. Mais on a des recettes à partir de 10 minutes. Et l'idée aussi, et c'est ce que j'explique dans l'introduction, c'est d'apprendre à s'organiser. On n'est pas obligé de cuisiner tous les jours. Le dimanche, on cuit 2 légumineuses, 2 céréales. On a déjà 2 légumineuses et 2 céréales pour la semaine. Après, on peut faire une petite sauce.
Ça s'apporte un nom incroyable, le batch cooking.
Ça, ouais. Alors ça, c'est le nom qui fait fureur.
C'est quand on lit elle.
Oui, et finalement, on le comprend aisément que c'est important parce que ça permet de ne pas cuisiner tous les jours. Moi, je suis cuisinière, je suis passionnée de cuisine, mais je ne cuisine pas tous les jours. J'ai envie de bouquiner, j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de faire autre chose. Donc, c'est s'organiser un petit peu de méthode.
Savoir gérer les restes, peut-être aussi parfois.
Indispensable. Ne pas jeter. Et puis vraiment la rotation des denrées. Donc souvent, on oublie des choses, on achète un peu trop de choses et on jette. Il nous reste un peu de légumes cuits, on peut tout à fait en faire autre chose.
J'ai vu que vous utilisiez même les croûtes de fromage.
Oui, et ben les croûtes de fromage, quand on n'a pas beaucoup de sous, et je vous assure que c'est délicieux, on les met simplement dans une eau dans laquelle on va cuire des pâtes, du riz, une céréale, et ça donne vraiment une saveur fromagère. Et à moindre coût. Et vraiment à moindre coût.
L'autre difficulté quand on est étudiant, c'est, je repense à mes années chambre de bonne, comment on fait ? On n'a pas la place d'avoir tout l'équipement qu'on peut avoir chez papa-maman.
On n'a pas besoin de grand-chose pour cuisiner. Et puis vous savez, il y a une nourriture aussi qui est très facile, c'est les légumes crus par exemple, avoir toujours une petite crudité crue. Après une casserole, une poêle, on peut déjà bien se débrouiller. Si on a un four, c'est magnifique, parce qu'on peut préparer. Mais surtout si on a un four, on ne met pas une seule chose dans le four, mais on fait plusieurs cuissons pour la semaine de façon aussi à optimiser en termes d'énergie. Et non, on peut cuisiner vraiment avec peu. Moi, je crois qu'on a tout complexifié et c'est extrêmement simple si on est sur une cuisine simple au sens noble, hein, vraiment au sens noble, et avec des produits de qualité. Et puis surtout, l'idée du plaisir et de se régaler. Il faut que ce soit savoureux, quoi. Et même avec peu, ça peut être extrêmement savoureux.
Alors, je vois qu'on arrive tout doucement vers 18h14. Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont faim. Quelle recette vous nous proposez ?
Alors, il y a une recette, moi, que j'aime beaucoup et qui est très facile et surtout, on peut la décliner. C'est par exemple, il commence à faire un petit peu froid, un velouté de haricots lingots. Alors, c'est des haricots blancs.
Donc là, c'est les fameuses légumineuses
dont je parlais tout à l'heure. Donc, il suffit, alors pas de panique, hein, de les faire tremper la veille. Mais alors, faire tremper, ça prend 1 minute.
Donc ça, c'est une recette pour demain soir.
Par exemple, pour demain soir.
Donc notez bien.
Exactement. Donc on prend un bol, là tout de suite maintenant, si vous en avez. un bol dans lequel vous mettez vos haricots blancs et de l'eau, vous laissez tremper. Le lendemain, vous faites cuire. Ensuite, vous mixez. Et j'aime beaucoup les préparer. Donc il n'y a besoin de rien d'autre parce que le haricot blanc, il est très onctueux. Vraiment, il a une texture très onctueuse et ça nous donne quelque chose qui est très appétissant. Donc il n'y a pas besoin de beurre, il n'y a pas besoin de crème, il n'y a pas besoin de tout ça.
Et rajoute pas un peu d'huile d'olive pour donner du goût.
Si vous avez envie, une petite huile d'olive. Si vous avez envie, du poivre.
Peut-être.
Des noisettes, si vous en avez, oui, c'est formidable. Après, les noisettes, c'est
moi,
peut-être un peu cher pour certains.
Oui,
on peut acheter des petites graines de sésame, ça, c'est pas très coûteux. On peut acheter des graines de tournesol. La cacahuète aussi, c'est pas très coûteux. Tournesol, sésame et cacahuète, c'est peut-être les légumineuses, les oléagineux les moins coûteux. Et puis alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire griller à côté des oignons. Donc un oignon rouge hein, qu'on va faire griller dans un peu d'huile d'olive avec du sel et du poivre. Et ça va faire comme des petites chips d'oignons qu'on met sur cette crème et c'est vraiment sympa. Et ce qui est intéressant dans cette crème, c'est qu'on peut la faire avec des pois chiches, avec des haricots rouges, avec des pois cassés. On peut rajouter un œuf mollet. sans l'œuf mollet, on est à 70 centimes. Avec l'œuf mollet, on est à 1 euro. Donc, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Et on peut rajouter des petits croûtons de pain à l'ail qui nous restent. Et puis voilà, on a une belle assiette.
Alors là, quand nous en parlez, moi, je vous vois. En plus, on voit que vous êtes heureuse, que vous aimez parler de nourriture. Ça vient d'où ? Vous avez toujours aimé ça ou vous avez appris au fil du temps ?
J'ai pas toujours aimé ça parce que petite, j'avais plutôt un appétit d'oiseau. C'était compliqué la nourriture parce que j'étais très exigeante. Et par contre, j'ai toujours eu cette exigence, même étudiante, et avec très peu d'argent. Et même dans mes premiers boulots où vraiment j'avais peu de sous et je comptais mes pièces pour faire mes courses, je faisais toujours le marché. Ça, c'était important pour moi. Et puis, j'organisais. J'ai besoin d'une nourriture juste, en fait. Moi,
c'est la justesse. Je pense à quelqu'un qui aime pas ça, qui dit « j'aime pas faire à manger ». Tant pis pour toi.
Non, surtout pas. Non, j'ai envie de dire à quelqu'un qui n'aime pas faire à manger, peut-être qu'il aime manger. Peut-être qu'il n'aime pas faire à manger, mais qu'il aime manger. Et peut-être que c'est un manque de culture culinaire, tout simplement, ou alimentaire. Donc culinaire ou alimentaire. Et peut-être qu'il faut essayer, vraiment, même si c'est une contrainte. La contrainte, moi, je crois qu'elle peut être créative au bout d'un moment. Donc tenter avec des choses extrêmement simples qui ne prennent pas trop de temps. Et puis, il faut cuisiner. Vraiment, la nourriture, la malbouffe, la nourriture ultra transformée, c'est du poison. Donc il faut cuisiner. S'organiser avec un peu de méthode pour avoir à cuisiner peut-être deux fois par semaine et guère plus. Et voilà, mais quelqu'un qui n'a pas envie, moi je crois qu'il faut insister un petit peu.
C'est peut-être parce qu'il n'a pas cette culture, justement. Peut-être qu'on ne l'a jamais appris. Peut-être
absolument.
Que chez lui, on n'aime pas ça.
Et souvent, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'était important pour moi dans ce livre, cette introduction, justement, pour amener tous ces éléments qui n'ont peut-être pas été transmis. Et je le vois dans mes ateliers, il y a beaucoup de personnes qui ont eu une transmission et d'autres pas. Mais en fait, ce n'est pas grave. La transmission, elle se fait tout le temps, toute la vie, en fait. Mais ce qui est important, et ça, c'est vraiment, j'insiste sur ça, bien manger, cuisiner, c'est respecter le vivant, c'est respecter son corps, le vivant dans son ensemble, et c'est vraiment un gain pour la vie.
Quand vous cuisinez, il y a de la musique ?
Oui, ça m'arrive, oui.
Et ben on va en écouter un peu, ça tombe bien. Hein. Quel sens de l'enchaînement ?
Roba corazones, tú eres una roba corazones.
Père Georges Robac. C'est donc Père Georges qui chantait et ça s'appelait Robacorazone. Voilà, Robacorazone.
La relève sur Radio Campus Paris.
Au départ de tout, je rappelle quand même que nous sommes avec Lila Djedi, qui est autrice de Cuisine du quotidien pour étudiants et étudiantes chez Tana Édition. Vous me disiez, tout commence en sentant bien ses courses. C'est important.
Très important. Et c'est la base, en fait. Il faut revenir à la base. Donc, bien faire ses courses, ça veut dire...
Ça veut dire avoir sa liste, pas se laisser tenter par tout ce qu'on voit.
Absolument. Ça veut dire peut-être en amont préparer des menus. Ça, c'est vraiment intéressant.
Vous en donnez à la fin dans le livre. Hein.
Oui, oui, oui. Je donne des menus pour la semaine. Je donne des menus entre copains pour le brunch. Et je donne des menus d'apéro dînatoire aussi entre copains. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien faire ses courses, de préparer en amont peut-être 4-5 recettes pour la semaine et de faire ses courses en fonction. Aussi, peut-être de retirer des sous, d'avoir du liquide plutôt qu'une carte bleue parce que ça permet de garder vraiment le budget qu'on a et de surtout... conscientiser le coût des choses. Le vrac, c'est très important parce que c'est là où les aliments sont moins coûteux. Toutefois, d'une enseigne à une autre, le prix diffère. Donc, il faut bien regarder les prix au kilo tout le temps, ou au litre pour les huiles, etc. Donc ça, c'est important pour conscientiser le coût et le prix des choses. Je dirais manger local, bio, évidemment, quand c'est possible. La saison, indispensable.
Ça, vous avez d'ailleurs le livre partagé en printemps, saison, été, ouais. Automne, hiver.
C'est tellement évident pour moi, vous voyez, que ça m'échappe parfois, mais c'est vrai que la saisonnalité fait que d'abord, on a les nutriments dont le corps a besoin, parce que ce n'est pas un hasard si on a, par exemple, des concombres en été. Le corps a besoin d'eau, de se désaltérer, donc c'est nécessaire. Et puis là, en ce moment, on va être sur du potimarron, sur de la patate douce, c'est beaucoup plus rassasiant, plus nourrissant. On a d'autres vitamines qui sont nécessaires parce qu'on a moins de luminosité. Donc ça, la nature est bien faite. Il faut vraiment comprendre que finalement, notre garde-manger, c'est la nature. Et puis donc la saisonnalité, le local. Déjà, voilà, ça, c'est des points qui sont vraiment importants. La liste de courses, maîtriser ses dépenses, donc se faire un budget par semaine, retirer en amont ses sous. Et après, si on a envie de se faire des extras, on peut s'en faire. Mais quand on arrive à bien gérer déjà comme ça, vraiment, ça paraît moins inaccessible d'avoir une bonne alimentation à un coût juste.
Dans la première partie de l'émission, je vous ai un peu embêté à vous dire si on n'a pas de place et si on n'a pas le temps. Je dois quand même dire que vos recettes sont très simples. À chaque fois, vous écrivez très simplement, très peu. C'est un peu le contraire du livre de cuisine très technique. On est débordé par les mots. C'est aussi volontaire. Vous l'avez fait volontairement.
Oui, absolument. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que ce qui était important pour moi, c'était vraiment peu de temps, pas de budget, enfin un petit budget, pas de matériel. Et peu de connaissances, voire pas de connaissances, et démarrer de zéro, on quitte le nid familial et hop, on se retrouve dans une petite cuisine où il faut se nourrir tous les jours. Ça peut être un peu anxiogène quand même. Donc oui, c'est très très important pour moi et avec très peu d'ingrédients.
Ça me rappelle le confinement, là, ce que vous dites, qu'il faut se nourrir tous les jours, matin, midi.
Ah, on a beaucoup plus conscience, avec le confinement, on en a pris conscience.
On s'en rendait bien compte.
Tout à fait.
Vous vous dites autodidacte en cuisine, vous avez eu une première vie professionnelle avec des tableurs Excel devant un ordinateur à faire des choses ennuyeuses ?
Un petit peu, mais pas tout à fait ennuyeuse. En tout cas, une partie ennuyeuse, l'autre un petit peu moins. J'ai travaillé dans l'audiovisuel où j'étais chargée de production, donc de suivi de fabrication d'images en 2D et en 3D. Donc, j'avais le côté tableau Excel, effectivement, où c'était un petit peu ennuyeux. Mais par contre, j'avais le travail dans le studio avec les graphistes, où là, c'était vraiment intéressant parce qu'on travaillait sur l'image et il y avait autre chose.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer ?
Alors d'abord, moi, j'ai toujours voulu être autonome, indépendante. Et puis j'ai toujours été passionnée de nourriture, mais de nourriture vraiment cette idée de justesse. Donc avec cette idée de respecter l'environnement, de respecter son corps et surtout de démocratiser cette idée du bien manger pour tous, quoi.
Tout à l'heure, vous nous avez donné une idée de plat. Alors, j'ai peur de me tromper, c'était une soupe de haricots blancs, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est un velouté de haricots blancs.
Eh bien, on passe au dessert. Moi, j'aurais une recette sucrée maintenant. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors,
c'est toujours pour demain, pour ce soir ? Enfin, peut-être dès ce soir ?
Dès ce soir, si on la laisse quand même une heure. Donc, je ne sais plus quelle heure il est. Mais,
ça va, il est 18h25.
Ou demain, avec les haricots lingots, peut-être.
D'accord.
Alors, il suffit d'avoir une banane que vous allez couper en morceaux, la congeler, la mettre dans votre freezer, en espérant que vous ayez un petit freezer. Si vous avez un congélateur, avez un congélateur, sinon un freezer. Cette banane va se congeler. Sur le feu, vous faites un caramel très simple.
Donc c'est du sucre.
Oui, on choisit un sucre surtout pas blanc, surtout pas raffiné. Hein. On va sur des sucres bio, de préférence évidemment. Franchement, surtout avec ces coûts-là, faut pas se priver, quoi. Faut aller sur des produits de qualité. Et puis vous faites votre petit caramel. Vous pouvez rajouter des petites graines de tournesol. Donc le caramel, c'est sur le feu. Vous laissez fondre. Vous rajoutez des petites graines de tournesol, des graines de sésame, une petite noisette de beurre salé, caramel au beurre salé avec des graines. Vous mixez votre banane quand elle est.
Il faut un mixeur
congelée.
Ou on peut le faire à la main. Sinon, il faut peut-être un peu fort
petit
à la main.
Mixeur. On a des petits mixeurs qui coûtent 20 euros. Hein, les girafes, on appelle ça des mixeurs girafes. Alors, il y a sans doute un autre nom qui va me revenir. Un mixeur plongeant. Ouais. Donc ça coûte 20 euros et on a même l'option fouet avec. Donc ça coûte rien du tout, on peut se le faire offrir.
C'est bientôt Noël.
Et vous mixez et vous mettez votre petit caramel et c'est franchement à tomber. Et c'est une glace express.
Donc il y a un chaud-froid.
Il y a un chaud-froid, exactement. Vous savez, un peu comme les glaces au caramel des gens dont on ne veut plus. Ou en tout cas, moi, dont je n'ai jamais voulu.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous avez créé la cantine vagabonde. J'adore ce mot, cantine vagabonde. C'est quoi la cantine vagabonde ?
Alors, la cantine vagabonde, je l'ai créée il y a 12 ans. Et au départ, c'était un restaurant, une cantine que j'ai ouvert dans un quartier populaire de Paris, au métro Stalingrad. Donc, un restaurant à l'époque, donc en 2012, bio, végétarien, de saison. On livrait par triporteur et on compostait tous nos déchets organiques dans le petit jardin derrière. Alors, pour tout vous dire, pendant quand même 4-5 ans, je n'avais pas du tout envie de dire que c'était bio et végétarien parce que je voulais vraiment laisser l'opportunité à tout le monde de venir et de pas m'enfermer d'une part et surtout de ne pas apeurer certaines personnes qui n'avaient pas l'habitude. Moi, j'avais juste envie de faire quelque chose qui avait du sens, de remettre du sens dans l'assiette et de parler de la terre parce que la terre, je veux dire, si la terre n'est pas bonne, eh ben, on ne mange pas quoi, et on n'a pas de nourriture. Donc, j'avais envie de transmettre. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans.
C'était le nom en fait du lieu.
C'était le nom du lieu. C'était le nom du lieu et puis j'aimais bien cette idée de cantine vagabonde parce que j'aime bien le vagabondage, voilà, la découverte, la curiosité et puis vagabondage dans l'assiette avec les épices, la cuisine végétarienne. Je trouve que ça s'y prête vraiment parce que c'est une cuisine du monde finalement. Et d'ailleurs moi je l'ai découvert parce que j'ai vécu en Angleterre pendant un an et demi et c'est là-bas que j'ai eu mon coup de cœur sur la cuisine végétarienne.
Vous allez publier bientôt d'autres recettes ?
Oh, écoutez, c'est mon troisième livre. Je pense que je vais continuer parce que j'aime bien accompagner.
J'ai pas plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, voir des recettes peut-être en ligne ?
Oui, absolument.
Est-ce que vous avez un compte
TikTok ? J'ai un compte Instagram.
Instagram,
Cantine Vagabonde, Lila Djedi. J'essaie de publier de temps en temps des recettes. En tout cas, dans mon fil, vous allez en voir. Il y a des recettes très simples et je parle aussi d'autres choses autour de l'écologie.
Très bien, merci beaucoup d'être passé par le studio, j'allais dire je ne sais pas quoi d'ailleurs, la radio de Campus. Donc par le studio de Radio Campus.
Merci.
Je redonne le titre de votre livre, Cuisine du quotidien. En tout cas, on a tous faim et on a envie de bien manger ce soir avec justesse, on a retenu. Merci, donc le livre s'appelle Cuisine du quotidien pour étudiants et étudiantes. Ça a paru aux éditions Tana et vous êtes Lila Djedi.
Merci beaucoup.
C'était La Relève, produite et présentée par Christophe. Ce soir, la réalisation était assurée par Jefferson. Vous pourrez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou près sur le site de Radio Campus Paris. À 19h, c'est la matinale qui est ce soir présentée par Brice. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée, bon appétit surtout.